20h-21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, Emmanuel Macron s'explique en direct du porte-avions Charles de Gaulle. Les sujets ne manquent pas, carburant, Trump, armée européenne, popularité, nous les décrypterons au fur et à mesure dans les informés. Retour également sur les propositions mises sur la table ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe en matière de hausse des taxes sur les carburants. Peuvent-elles convaincre des gilets jaunes qui maintiennent leur mobilisation samedi? Emmanuel Macron répond à Donald Trump en Conseil des ministres. La diplomatie ne se fait pas à coups de tweets, mais dans les discussions bilatérales, a déclaré le chef de l'État. Nous reviendrons évidemment sur le sujet qui fâche, le projet d'armée européenne. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info.
Exactement.
Également invitée, bonsoir Sophie de Menton.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Avec nous également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver Jean-Sébastien, cofondateur et directeur de la publication d'Atlantico.fr. Et avec nous David Bosmorin. Bonsoir David.
Bonsoir Jean-François.
Bienvenue, communicant, cofondateur de l'agence OPS2. Nous aurons le plaisir d'accueillir également en fin d'émission Louise Baudet du service politique de France Info et Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France qui nous rejoindront donc pour débriefer l'interview présidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Le Premier ministre le matin, le Président de la République le soir, à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. L'exécutif est donc sur le pont et pour le chef de l'État, c'est celui du Charles de Gaulle pour une interview à Toulon que nous allons décrypter ensemble et dont vous entendrez un extrait dans le courant de l'émission. Mais tout d'abord, c'était sur RTL ce matin au micro d'Elisabeth Martichoux. Édouard Philippe a dévoilé les mesures gouvernementales pour aider les Français qui subissent les hausses des prix des carburants. La première d'entre elles est bien la super prime à la conversion.
Première mesure, nous allons développer et développer massivement la prime à la conversion automobile. Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super prime soit créée qui permettra de passer à 4000 euros, qui permettra d'acheter un véhicule d'occasion, lequel sera moins consommateur que le véhicule qui est aujourd'hui détenu par ce Français. Et grâce à cela, nous allons permettre aux Français d'être accompagnés.
Et voilà ce qu'en disent à présent les gilets jaunes rencontrés notamment à Nîmes, dans le Gard.
Ce qu'a annoncé ce matin ce cher Premier ministre, d'un, on n'est pas là pour faire l'aumône, d'accord? On est des gens, on travaille, on veut vivre simplement décemment de nos salaires. Je veux dire, moi je ne suis pas une gueux, on ne me donne pas un chèque de 20 euros qu'on ne me donnera pas, puisqu'en plus je suis dans la tranche où moi j'ai droit à rien et je paye tout. On rajoute 4000 euros pour les plus modestes. Vous pensez vraiment que ces gens-là vont avoir à peu près de leur poche, une fois qu'on leur a donné, qu'on leur a fait l'aumône, ils vont avoir à peu près 15 000 euros à mettre dans un crédit pour changer de voiture? Mais les gens, ils n'arrivent même pas à faire 50 euros de course.
Audrey Goutard, cette réaction était courue d'avance?
Oui, d'abord, de toute façon, la colère est là, la manifestation du 17 n'est pas commencée, donc évidemment, et puis, on le sent bien, c'est ce qu'explique cette dame, et on voit autour les gens qui s'interrogent, c'est-à-dire que il est compliqué de faire l'addition pour l'instant de ce qui va permettre aux gens de compenser le manque à gagner et ce qui va aller finalement dans la poche de l'État. Je pense que les gens sont un peu perdus et que pour le moment, on ne leur a pas expliqué suffisamment clairement le plus et le moins.
Jean-Sébastien Ferjou, l'aumône, disait cette personne en gilet jaune. Au fond, c'est inéluctable, il y aura cette grande manifestation samedi, cette mobilisation, peu importe les annonces faites ce matin.
Peut-être que les annonces faites ce matin permettront d'atténuer la réaction de gens qui étaient les plus distants des gilets jaunes. Mais sur le cœur du mouvement, je pense que effectivement, ça pouvait de toute façon difficilement produire un effet. D'un, parce qu'il y a un peu un côté usine à gaz. De deux, parce que les mesures elles vont pas être instantanées et que donc il y a un problème de calendrier. Et de trois, parce que de toute façon, le gouvernement avait un problème politique. Soit il décidait de renoncer à la hausse...
Qui était la seule décision attendue, finalement.
Qui était, oui. En tout cas, par le cœur du mouvement des Gilets jaunes. Mais ce faisant, il se serait un peu tiré une balle dans le pied du point de vue de son propre électorat, puisqu'on l'a vu, La République En Marche craint plutôt ces derniers temps qu'une part de son électorat la déserte pour un vote écologiste au moment des européennes. Donc ça n'aurait pas été cohérent du point de vue du gouvernement. Là, au moins, ça maintient la possibilité, ce qu'Édouard Philippe a fait assez habilement ce matin du reste, de dire, regardez, nous sommes courageux, nous ne sommes pas, nous ne faisons pas partie de ceux qui vous vendons une promesse au moment d'une élection présidentielle pour revenir dessus ensuite. Maintenant, le problème politique, il reste entier, parce que je pense que la crise des Gilets jaunes, elle dépasse de très loin la question de l'essence.
Alors, petite parenthèse, hein, déclaration du chef de l'État en marge de cette interview qui va démarrer. Ce qui importe très sincèrement, c'est que ce que nous faisons avec l'armée américaine. C'est donc la première réaction du chef de l'État à propos des tweets de Donald Trump. Et vous, Sophie de Menton, vous avez également tweeté hein, sur les Gilets jaunes et vous étiez assez sévère, je trouve. Vous trouvez qu'on fait trop de publicité pour ce mouvement ?
Délire. On pourrait mettre des millions de dollars, on n'aurait jamais une publicité, une campagne de promo qui soit à la hauteur de ce qu'on fait sur les gilets jaunes. Et d'ailleurs, quand on demande à un gilet jaune qui est déjà posté, est-ce que ça va vous faire renoncer à ça? Vous pensez bien qu'il va dire non. Ouais. Alors, là, pour l'instant, on est en train de... C'est devenu pour eux quelque chose d'important qui dépasse d'ailleurs. Elle ne savait pas, et je comprends très précisément combien ça allait lui rapporter, si ça allait être un avantage ou pas. C'est pas très clair et c'est pas très compréhensible. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi acheter une bagnole, donc la prime pour en racheter une autre, on voit pas l'intérêt. En revanche, deux choses... Moi, j'aurais rien fait, parce que ça ne peut pas dissuader des gilets jaunes, à partir du moment où ils ont envie
de manifester. Vous n'avez pas fait d'annonce.
J'aurais rien fait du tout. Et deuxièmement, en tout cas, ils l'ont bien fait de le faire avant, parce qu'après, on aurait dit qu'ils avaient cédé à la rue.
David Bosmorel, vous n'auriez rien fait également, si vous étiez membre du gouvernement? Pas d'annonce?
C'est une bonne question. En fait, j'en sais rien. Mais ce qui m'a frappé, c'est la rotation du discours d'Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'au départ, on est quand même sur une position d'autorité, de fermeté. Et puis finalement, tout à coup, on dit, mais en fait, on est plutôt sur un discours de la transition énergétique. Et donc, c'est la conduite du changement, comme ça se passe dans pas mal d'entreprises. Donc, on va faire la pédagogie de l'accompagnement de la conduite du changement.
Un peu tardive, la pédagogie.
Légèrement, mais
c'est malin.
Ça passe.
C'est malin.
Allez, nous poursuivons sur ce sujet. 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Invité politique ce soir de France Info, la porte-parole des Républicains, Laurent Saillé, souhaite faire reculer le gouvernement sur la hausse des taxes sur le carburant. Le chef de l'État Emmanuel Macron doit s'exprimer justement sur ce sujet ce soir dans le 20h de TF1. Ce matin, Édouard Philippe a annoncé des mesures pour accompagner les Français face à cette augmentation des tarifs de l'essence et du diesel. Des milliers de Marseillais ont de nouveau manifesté ce soir dans les rues de la cité phocéenne. Ils ont demandé la démission de leur maire, Jean-Paul Gaudin. Cette marche de la colère fait suite aux effondrements de deux immeubles lundi dernier, ils ont fait 8 morts. La cour d'assises de Seine-Saint-Denis rendra son verdict demain. D'ores et déjà, l'avocat général requiert 6 ans de prison contre Georges Tron, maire de Draveil, et 4 ans de détention à l'encontre de son ancienne adjointe à la culture. Tous deux comparaissent pour des faits de viol en réunion et d'agression sexuelle sur 2 ex-employés municipales. Les 27 ambassadeurs de l'Union européenne suspendus à la décision du gouvernement britannique. Tous se sont retrouvés aujourd'hui à Bruxelles. Ils attendent de savoir si le gouvernement de Theresa mais va dire oui au projet d'accord technique sur le Brexit. Les ministres britanniques sont réunis depuis cet après-midi sur ce dossier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
David Bosmorel, je vous ai un petit peu coupé le sifflet, pardonnez-moi. Ces gilets jaunes, au fond, c'est un mouvement finalement qui est quelque part ni droite ni gauche, transparti. On a du mal à cerner la nature de cette mobilisation.
On dirait que c'est une forme d'objet politique non identifié. Même Jean-Luc Mélenchon parle d'un mouvement d'auto-organisation populaire. Donc en fait, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être que c'est aussi une résultante ou un symptôme de la perte d'influence de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, les associations, et peut-être aussi une manifestation de l'érosion un peu du tissu social. Néanmoins, il y a un fait nouveau, c'est que c'est un mouvement qui se structure non pas via les voies classiques, mais avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est la révolution un peu 2.0 sur un mouvement de contestation qui s'autostructure.
Oui, donc vous direz... Oui, allez-y, Jean-Sébastien Ferjou.
Non, mais c'est une forme de mouvement citoyen, c'est-à-dire qu'on n'en a pas eu en France tellement jusqu'à présent. Il y avait eu dans un certain registre la manif pour tous, mais qui était restée limitée sur un sujet en particulier. Et après, on avait vu Nuit Debout, mais Nuit Debout, au contraire, était plutôt un mouvement qui venait d'en haut et qui n'était pas extrêmement spontané, qui concernait pas vraiment les gens. Ouais. Là, c'est un mouvement citoyen.
Qui concerne tout le monde, puisque
évidemment que c'est l'épuisement de la démocratie représentative. On voit que les corps intermédiaires ne sont plus en état de répondre à la demande politique des Français dans un quinquennat où Emmanuel Macron, évidemment, n'en est pas la cause. C'est un mal qui est à l'œuvre depuis 30 ans ou 40 ans. Mais enfin, lui, en plus, peut-être, et par son style personnel et par son mode de gouvernement, en rajoute, parce qu'on l'a vu avec son itinérance mémorielle la semaine dernière, il met en scène son rapport direct aux Français. Mais donc, il pourra toujours essayer d'aller à la rencontre de 65 millions de Français s'il n'investit pas dans son mouvement, dans La République En Marche, et on le voit avec l'élection à sa tête qui est en cours à l'heure actuelle, il n'investit pas là-dedans. Bah, la démocratie représentative, en quelque sorte, elle est morte. Et donc, forcément, bah, vous avez en fait des mouvements comme les Gilets jaunes, sauf que bien malin, celui qui arrive à négocier avec.
Est-ce que c'est pas...
Attendez, Sophie Nanton et puis Audrey Goutard,
est-ce que c'est pas un peu plus simple que tout ça? Moi, d'abord, les gens détestent qu'on touche à l'essence et à leur voiture. Donc là, c'était la taxe de trop qui a fait ça. Ensuite, c'est un phénomène intéressant. C'est né par une femme qui, sur Internet, a dit ras-le-bol, je veux pas qu'on augmente l'essence. Donc, c'est parti comme ça. Et je me demande si on n'est pas en train d'analyser avant que ça se passe. On est sûr de savoir d'ailleurs si ce sera suivi ou pas suivi. On n'a aucune espèce d'idée puisque de toute façon ça part de partout. Mais je crois que c'est peut-être tout simplement un ras-le-bol par rapport à quelque chose qui effectivement touche les Français directement au portefeuille dans leur vie quotidienne.
Oui, Audrey Goutard là-dessus, mouvement qui est un petit peu imprévisible finalement, qui est venu de nulle part, qui a pris tout le monde de court.
Bien sûr, et c'est ce qui est intéressant. On a souvent reproché, notamment pendant les périodes de campagne électorale, le fait que cette France-là ne s'exprime pas du tout, qu'on ne voyait pas cette France moyenne, cette France rurale, cette France des gens qui bossent le matin, qui se lèvent tôt, etc. Là, il s'exprime, et je trouve que... Enfin, on peut considérer qu'il est sain qu'ils s'expriment. Après, je porte pas de jugement sur leur combat, mais au moins, on les voit. Ils sont peut-être un peu surreprésentés dans les médias actuellement, mais on ne les a tellement pas entendus ces dernières années qu'ils sont là, voilà.
Alors, Emmanuel Macron a démarré son interview en direct du porte-avions Charles de Gaulle et il commence à répondre à des questions qui concernent la relation avec les États-Unis, la situation avec Monsieur Trump et le président de la République, je vous le donne en direct, dit qu'il n'a pas été blessé par les tweets de Donald Trump. Entre alliés, ajoute Emmanuel Macron, on se doit le respect. Tout ça n'a pas d'importance. Je pense que Trump fait de la politique américaine. Ce que je vous propose, c'est d'écouter ce qu'en disait ce matin au sortir du Conseil des ministres, parce qu'il en a été question autour de la table, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Hier, c'était le 13 novembre. Nous commémorions l'assassinat de 130 de nos compatriotes il y a 3 ans à Paris et à Saint-Denis. Et donc, je vais répondre en anglais. Common decency aurait été de bonne loi.
Alors David Bosmorin, pour rebondir sur ces premières déclarations du chef de l'État, est-ce à dire qu'il n'y a pas de crise diplomatique entre Paris et Washington?
En fait, Emmanuel Macron, la semaine dernière, a donné une longue interview à CNN, dans lequel il a, en effet, il est revenu sur la situation, il est revenu sur le projet de l'armée européenne, il est venu sur les relations historiques qui lient les États-Unis et la France. La coopération, l'amitié, la fraternité. Et ensuite, on a vu que Trump avait fait des tweets qui étaient plus ou moins incendiaires. Alors, ce qui a vexé probablement Trump, c'est peut-être une phrase qui était assez habile, un peu atone d'Emmanuel Macron, qui a conclu l'interview comme ça, en déclarant que cette amitié historique avait de toute façon un terreau qui était extrêmement ancré dans notre histoire commune et qui allait durer bien au-delà de la présidence de Trump. C'est peut-être ce qui a vexé le président américain.
Oui, Sophie de Menton, est-ce que ça n'est pas un petit peu court pour prolonger ce que dit David Bosmorin, de considérer que Donald Trump au fond est un petit peu à côté de la plaque et qu'il tweete de façon intempestive, ou bien, comme le dit le chef de l'État, qui s'adresse simplement à ses propres électeurs? Est-ce que cela va au-delà, cette
crise?
C'est
du fast-food. Je veux dire, la communication de Trump, c'est du fast-food. Il faut
l'apprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par fast-food?
Ça veut dire que ça se consomme comme ça. C'est un tweet qui part. Il est quand même un peu caractériel. Il envoie ça le matin en se réveillant, peut-être de mauvaise humeur. Et je pense curieusement que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que, d'abord, il est assez malin, d'ailleurs, il serait pas là s'il n'était pas. Il est capable, je suis sûre, d'avoir des relations chaleureuses avec Macron en dehors de ça. Macron a parfaitement raison de pas relever ses tweets. Et en plus, alors j'ai presque envie de remercier Trump parce que il a donné un coup positif à l'Europe. Tout d'un coup, l'Allemagne s'est sentie visée.
Vous pensez qu'il donne vraiment un coup de main ?
Finalement, avec ses tweets, il a eu un effet contraire. J'ai l'impression que ça a un petit peu rassemblé l'Europe, les peuples européens.
Jean-Sébastien Ferjou, il fait de la politique américaine, explique Emmanuel Macron. Pourquoi cette volonté, au fond, de minimiser les propos du président américain ?
Je suis pas sûr que faire des tweets sur Emmanuel Macron, ça passionne fondamentalement l'électorat de Donald Trump aux États-Unis. Donc non, je pense qu'il répond vraiment à Emmanuel Macron. Après, ça n'est pas un mode traditionnel de faire de la diplomatie. Ça n'est peut-être pas un mode non plus très digne de le faire, mais il lui répond sur le fond. Enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, Emmanuel Macron l'a quand même pas mal égratigné, et pas seulement dans la chute de l'interview, dans l'interview de CNN. Il lui a imposé un discours le jour du 11 novembre sans que Donald Trump soit en situation de répondre ou objectif. Effectivement, il démolissait la vision qui est celle du président américain. Il l'avait déjà fait aux États-Unis dans son discours à la Chambre des représentants, où il avait, même chose, totalement défoncé la vision politique de Donald Trump après avoir cherché à sympathiser avec Donald Trump. Moi, je pense que ce qui a peut-être changé là, c'est qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte que peu importe que lui, contrairement à d'autres dirigeants européens, ait essayé de jouer le jeu de la séduction avec Trump, il n'a rien obtenu. Donc là, ils renoncent. Ils sont chacun dans le dur de leur position. Maintenant, j'adorais que Sophie de Menton ait raison sur l'Europe. Malheureusement, j'entendais aujourd'hui la successeure potentielle d'Angela Merkel, qui est la candidate dite modérée, qui disait « bah oui, mais il faut quand même qu'on le dise à la France. Si moi, je suis élu, la modérée, ça sera l'Allemagne d'abord. »
Audrey Goutard, entre alliés, on se doit le respect. Et suite des déclarations d'Emmanuel Macron, les États-Unis sont notre allié historique, mais être allié ne signifie pas être vassal, ça sent un peu le divorce quand même.
Non, alors attendez, il faut regarder les tweets de Trump d'un côté.
C'est un concours de muscles.
Il y a le concours de muscles, évidemment, et ça passe par les tweets, etc. Et puis, il faut écouter aussi ce que dit, par exemple, la Maison Blanche, qui est la voix diplomatique de l'Amérique, en fait. Et ce matin, la porte-parole de la diplomatie américaine soulignait que tout ça, c'était beaucoup de bruit pour rien, et elle a réaffirmé les relations étroites entre la France et les États-Unis, et notamment en parlant de la France, un de nos plus importants alliés et plus anciens. Oui, donc là, voilà. Ça, c'est la diplomatie. Après, effectivement, chacun joue sa carte, et notamment la carte de la nécessité d'une armée européenne. Et là, je vous rappelle que Angela Merkel a soutenu cette idée-là.
Eh bien, vous faites bien de l'évoquer. Nous allons l'écouter dans un instant, 20h20 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Pour Emmanuel Macron, entre alliés, on se doit le respect et je ne veux pas entendre le reste. Le chef de l'État vient de réagir au tweet publié hier par Donald Trump. Le président américain y attaquait entre autres la France. Emmanuel Macron s'exprime ce soir, en ce moment même, dans le 20h de TF1. Il devrait aborder également le dossier des carburants. Élu responsable, que la justice passe, pouvait-on lire ce soir sur une pancarte à Marseille où des milliers d'habitants ont manifesté ce soir. Ils ont défilé entre la rue d'Aubagne et la mairie. Ce nouveau défilé fait suite aux effondrements d'immeubles il y a 10 jours maintenant dans le centre-ville de Marseille qui ont fait 8 morts. Le sort de l'otage Sophie Petronin inquiète les autorités. Dans une vidéo dont le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance, les ravisseurs de la française évoquent la dégradation récente de son état de santé. Sophie Petronin a été enlevée au Mali le 24 décembre 2016. Le ministre de la Défense israélien quitte aujourd'hui ses fonctions. Son départ fait suite à la reconnaissance par le Premier ministre de l'accord de cessez-le-feu conclu hier soir avec les groupes palestiniens armés de la bande de Gaza. Un accord conclu après de violents échanges de tirs depuis dimanche dernier et la mort de 8 personnes, dont 7 Palestiniens.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà l'interview d'Emmanuel Macron en direct du porte-avions le Charles de Gaulle, le chef de l'État, qui annonce deux nouveaux porte-avions pour la France à venir. Il était question à l'instant, évidemment, de ce projet d'armée européenne qui apparemment a dû froisser le président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, la chancelière allemande Angela Merkel, devant le Parlement européen à Strasbourg hier, a validé cette idée.
Ich habe J'ai proposé la constitution d'un Conseil de sécurité européen avec une présidence tournante au sein de laquelle des décisions importantes pourront être plus rapidement prises. Je suis absolument convaincue, surtout si l'on considère les développements de l'année écoulée, que nous devons élaborer une vision nous permettant d'arriver un jour à une véritable armée européenne.
Sophie de Menthon, cette déclaration de la chancelière valide un peu ce que vous avancez tout à l'heure. Finalement, quelque part, cette idée chemine alors qu'elle a traîné pendant des décennies.
Oui, j'ai l'impression qu'on tient un peu, on a un peu fait bloc. Et puis surtout, il a dit quelque chose, Trump, par contre, on n'y fait pas allusion, mais quand même qui est très déplaisant et qui là n'est pas anti-Macron, mais qui est anti-français, parce qu'il a quand même dit, souvenez-vous ce que les Français faisaient à ce moment-là, ils apprenaient tous à parler allemand. Genre, c'est un peuple qui fichait rien, qui avait baissé la
tête. Et heureusement que nous sommes arrivés.
Et oui, heureusement qu'on est arrivés.
On a oublié ça.
Ça, c'était quand même très désagréable, c'était pas contre Macron qui n'était pas né, mais c'était désagréable pour les Français, c'était désagréable pour toute l'Europe, et donc je crois que ça a donné finalement envie d'être un peu ensemble.
David Bosmorin, Trump s'est senti humilié par Emmanuel Macron ou pas? Est-ce qu'il y a ce ressort psychologique là?
Il veut être chef.
Il y a le ressort assez autoritaire, en tout cas dans la stratégie de communication, c'est-à-dire qu'il aime s'inscrire dans une relation qui est clivante, voire conflictuelle, tout de suite.
Oui.
Il y a quand même une constante de la politique de Donald Trump qui est de dire les États-Unis financent la défense de l'Occident, c'est sa vision. Il serait quand même bon que l'Europe participe au financement et il serait bon qu'un certain nombre de pays, il s'adresse pour le coup pas tellement à la France mais plutôt à l'Allemagne notamment, assument leur part de ce qui est inscrit dans le traité de l'OTAN, c'est-à-dire pour défendre l'Occident et donc portent au moins leurs dépenses de défense à 2% de leur PIB.
Partager le fardeau, c'est ça.
Mais on en est très très loin. Donc je veux dire, Donald Trump, il a un vrai dossier de ce point de vue-là. Après, sur une armée européenne, moi je veux bien qu'Angela Merkel se sente solidaire d'Emmanuel Macron. Mais enfin, les Allemands n'ont rien fait sur le Mali, n'ont rien fait sur le Sahel. Quand on leur demande de l'aide, ils ne sont jamais là. L'Europe de la défense, elle existe avec les Britanniques. Donc une vraie armée européenne, un corps de défense européen, ça aurait éventuellement du sens. Une armée européenne, je ne vois pas d'où il pourrait surgir. Il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de diagnostic commun sur les menaces. Parce que si on commence à parler à l'Allemagne de notre rapport à la Russie, ça je peux vous garantir que la stratégie de défense, elle ne va pas être la même. Donc moi je veux bien que Donald Trump nous agace et qu'on en profite pour dire un peu n'importe quoi. J'aimerais mieux Europe qui assume son destin.
Mais en le faisant vraiment. Audrey Guterres, ça veut dire que nous parlerions dans le vide, il n'y a pas de projet, tout ça est finalement une sorte de faux débat?
Non, je ne suis pas d'accord pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Europe, là, actuellement, entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, joue un jeu de plutôt malin, c'est-à-dire que on prend Donald Trump à son propre jeu en lui disant vous voulez qu'on paye plus, etc. Vous trouvez qu'on paye pas assez, très bien, on va s'organiser entre nous et puis vous allez voilà. La deuxième chose, c'est de dire alors le fait qu'il y ait le Brexit et que les Anglais s'écartent de l'Europe n'est pas gênant. La preuve, c'est que l'année prochaine, on signe un accord avec les Anglais. C'est un accord à côté des accords habituels de l'Europe, où effectivement, on va développer l'initiative européenne d'intervention. C'est 10 pays, dont l'Angleterre, qui vont signer cet accord. Donc les choses avancent sans une structure européenne habituelle.
Je veux bien tout ce qu'on veut sur l'armée européenne. Il y a quand même les chiffres, c'est-à-dire que les dépenses de défense américaine, c'est plus ou moins 700 milliards de dollars par année. Le total de l'Union européenne, c'est 240. Donc de toute façon, quand bien même demain, on renoncerait à l'OTAN, parce que je pense que ce qui a vexé Donald Trump, c'est pas la perspective d'une armée européenne, c'était le fait qu'Emmanuel Macron ait eu une tournure de phrase, parce que c'est plus...
C'était aussi contre les États-Unis.
C'était aussi pour se défendre contre les États-Unis. Donc Donald Trump dit, vous êtes gentil, nous on paye pour vous défendre, vous allez pas en plus nous traiter comme des ennemis.
La réaction de Vladimir Poutine est intéressante. Vous avez vu qu'il a cautionné cette armée européenne.
David Bosmorin, vous évoquiez tout à l'heure l'interview CNN d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'au fond, le fait que le président français s'exprimant sur la chaîne un petit peu qui fait face au président des États-Unis a été aussi un sujet peut-être de vexation pour lui?
Forcément, il se positionne, puisque CNN a clairement pris position. C'est exactement l'inverse de...
En même temps, c'est 1% d'audience aux États-Unis.
De Fox News.
Même chose, alors, ça n'a pas beaucoup les mots.
Au niveau mondial, ça a du retentissement. Donc, ça reste quand même aussi une chaîne qui est historique. Mais cela dit, vous avez raison. Aux États-Unis, c'est devenu confidentiel. Mais en même temps, ça a quand même un rayonnement qui est international. Et Emmanuel Macron, il a quand même un avantage par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il parle très bien l'anglais. Et ça fait une énorme différence. Il est particulièrement apprécié par notamment les politiques démocrates américains.
Jean-Sébastien Ferjou, vous ne partagez pas cet avis. Vous dites que finalement c'est un épiphénomène, le fait de s'adresser à CNN, qui quand même, on a vu cette séquence à la Maison Blanche et cet affrontement entre ce confrère de CNN et le président lui-même.
Non, ça n'est pas un épiphénomène. Après, c'est nettement moins important que ce qu'il a dit dans le discours du 11 novembre, ou encore une fois, ce qu'il avait dit au Congrès américain. Parce que là, pour le coup, c'était entendu par beaucoup plus d'Américains.
Allez, nous marquons une pause pour la météo, le rappel de l'info, et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés. Nous continuerons le débriefing, pour utiliser ce mot, de l'interview du président Emmanuel Macron en direct du Charles de Gaulle.
Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients?
Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe.
Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger.
Bon ben, on part travailler au soleil.
Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 19 novembre, le design unique de l'Audi Q2 est à partir de 290€ par mois, avec extension de garantie et entretien inclus. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec apport de 2 340€. Réservé aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle.
France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Les conditions évoluent peu et il faut s'attendre à de nombreuses grisailles. Demain matin, les nuages bas et les brouillards laisseront progressivement place à de belles éclaircies, notamment de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne jusqu'au nord-est. En revanche, dans le Val-de-Saône, en plaine d'Alsace et plus localement vers le plateau Lorrain, les Ardennes et sur le nord-ouest, les grisailles risquent de persister demain après-midi. Le Languedoc-Roussillon reste sous l'influence d'entrées maritimes qui maintiendront un ciel gris apportant également un peu de pluie. Poussé par le vent venu de Méditerranée, des paquets nuageux glisseront jusqu'au Var, à la moyenne vallée du Rhône et au sud du Massif central. Demain matin, les températures pourront descendre entre 2 et 5 degrés sur le nord-est, alors qu'il fera déjà 14 degrés à Nice et à Toulouse. L'après-midi prévoyait 13 à 20 degrés en général, avec jusqu'à 21 degrés dans le Pays Basque, mais à peine 7 à 10 degrés sous les grisailles tenaces.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Emmanuel Macron passe la nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle, le chef de l'État qui s'exprime après les annonces d'Édouard Philippe d'aide aux foyers les plus modestes. Il a déjà réagi à la volée de tweets hostiles lancés hier par Donald Trump. Entre alliés, on se doit le respect, a dit Emmanuel Macron, qui affirme ne pas avoir été blessé par ces tweets. Les États-Unis sont notre allié historique, mais être allié ne signifie pas être vassal. Fin de citation. 10 jours après l'effondrement d'immeubles délabré qui a fait 8 morts à Noailles, le cœur populaire de Marseille, une nouvelle marche de la colère ce soir. Elle a rassemblé, selon les autorités, 8000 manifestants entre la rue d'Aubagne où a lieu le drame et l'hôtel de ville. Des manifestants qui réclament la démission du maire Jean-Claude Gaudin. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre aux abords de la mairie sur le vieux port de Marseille. Verdict attendu demain au procès de Georges Tron. Aujourd'hui, l'avocat général a requis 6 ans de réclusion contre le maire de Draveil et 4 ans pour son ex-adjointe à la culture. Tous les deux sont jugés dans une affaire de viol de 2 anciennes employées de la mairie. Après les réquisitions ce matin, la plaidoirie des 3 avocats de la défense cet après-midi est donc celle du ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti. Face au tribunal, il a littéralement dézingué sans retenir ses coups la presse, les féministes et les plaignantes. Mathilde Lemaire.
Maître Dupond-Moretti s'en prend d'abord à l'association Partie Civile aux côtés des plaignantes. C'est bien que la parole des femmes se libère, mais vous préparez un curieux mode de vie aux générations futures, lance-t-il. Mesdames et messieurs les jurés, si votre fils touche le genou d'une copine dans sa voiture, c'est une agression sexuelle, ça ? Interroge l'avocat qui se souvient amuser des slows de son enfance quand il tentait sa chance. Pour lui, les nouvelles féministes infantilisent les femmes. À 30 ans, on n'est pas une potiche incapable de dire non à un homme qui vous prend le pied, s'énerve-t-il. Une starlette, par exemple, qui veut réussir et se dit « je vais coucher », c'est de la promotion. dimension canapé. Il ajoute, il y a des hommes prédateurs peut-être, mais aussi des femmes qui sont attirées par le pouvoir, qui aiment ça. Il décrit les deux employés municipales sur les bancs des partis civils comme incohérentes, manipulatrices, concertées dans leurs mensonges. À propos de la première, dont il dit que sa tentative de suicide a été légère, il lance, au premier rendez-vous, elle a dit à Georges Tron qu'elle aimait la réflexologie, elle voulait le pécho. Comprenez, le choper, l'attraper. L'avocat se dit certain de l'innocence de son client, marqué injustement selon lui du sceau de l'infamie. Il est d'une patience remarquable. À sa place, je leur sauterai à la gorge, termine-t-il. Il parle bien là des deux plaignantes.
Mathilde Lemaire, c'est une étape cruciale du processus de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le gouvernement britannique donne son aval ce soir au projet d'accord sur le Brexit. D'après la première ministre britannique Theresa May, le projet répond au vote des Britanniques. Le Français Michel Barnier fera une déclaration sur le sujet depuis la Commission européenne. Européenne dans la soirée. Il est 20h33, les informés, la suite.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur de la publication d'Atlantico.fr, et avec David Bosmorin, communicant, cofondateur de l'agence OPS2, vous le savez, le président de la République Emmanuel Macron donne une interview en direct du porte-avions Charles de Gaulle à Toulon et il s'est exprimé sur les relations entre la France et les États-Unis après les tweets rageurs de Donald Trump. Et il est passé à présent sur le sujet qui concerne aujourd'hui l'ensemble des Français, celui des hausses des taxes sur les carburants. La parole présidentielle était très attendue sur ce sujet. Je vous livre ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, j'entends la colère et c'est un droit fondamental de l'exprimer. Il faut le respecter, l'entendre et ils ont tout à fait le droit de manifester. Samedi, ensuite, je dis méfiance parce que beaucoup de gens veulent récupérer ce mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'addition des colères et des blocages. Cela ne fait pas un projet pour le pays. Premier commentaire avec vous, Audrey Goutard, il est un petit peu sur une ligne prévisible.
Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait bien compris que là, on n'était pas dans l'annonce, mais effectivement dans le décryptage et puis dans la préparation de cette journée du 17. D'ailleurs, il le dit, j'entends bien l'impatience, je la partage. Donc il met en garde aussi en disant attention, votre mouvement spontané pour lequel il dit avoir une certaine, il reconnaît le droit à manifester, etc. Il dit attention au risque de récupération. Ouais. On l'a bien vu, effectivement, chaque parti d'opposition a tenté de mettre son impact sur ce mouvement. Donc voilà, il s'adresse aux gens qui se prêtent à commettre les blocages. Il dit sa vérité, et notamment que les augmentations et que l'augmentation du prix du diesel, ça n'est pas une nouveauté et c'était annoncé.
Oui, oui, ça fait de menton pour prolonger ce que dit Audrey Goutard, les colères, les blocages, cela ne fait pas un projet pour le pays, dit le chef de l'État. C'est un petit peu un message de fermeté finalement.
C'est un message de fermeté, en tout cas il faut qu'il ait un message de fermeté, mais c'est compliqué parce qu'en même temps il faut qu'il dise aux gens « je vous ai compris », selon la grande tradition. Mmh. Il faut qu'il dise qu'il entend la colère, etc. On l'a reproché d'être méprisant, donc il est vraiment sur un fil, c'est un numéro d'équilibriste. Ce qui est certain, c'est qu'il a un courage fou, il a un dynamisme incroyable, qu'il faut réformer ce pays, qu'il fait des erreurs, à mon avis, de com. D'ailleurs, ne serait-ce que moi, je ne comprends pas très bien pourquoi il parle d'à partir d'un porte-avions. Enfin bon, c'est curieux.
Qui consomme beaucoup de...
Qui consomme énormément d'essence.
C'est nucléaire, symbolique. Hein.
Mais, oui. Oui, je pense qu'il fait des erreurs de communication, ce qui n'est pas très grave. Ce ne sont que des erreurs de com. Sauf que ça peut avoir des conséquences. Mais que, voilà, il est là pour 3 ans et demi. Il faut aider ce président à... gouverner.
C'est votre message ce soir, Sophie Nanton.
Oui, vraiment. Il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on réforme le pays.
David Bosmorin, vous diriez, vous également, erreur de communication, parler. Il y a une symbolique du porte-avions.
Non, je suis d'accord. C'est pas grave. En fait, c'est pas très grave. Ce qui, de toute façon, on vit quand même. On est quand même un pays assez paradoxal, c'est-à-dire que on porte au nu une personne pour ensuite la détester jusqu'à ce que finalement elle s'en aille et tout à coup à nouveau la considérer. Enfin, les Français ont une relation qui est quand même assez singulière.
Ce sont les Français, Jean-Sébastien, les médias.
Ah, ah merci. Non,
quand vous dites le on porte nu et on linge, je pense que les Français ont un regard qui reste un peu moyen pendant toute la durée.
Les médias font aussi partie des Français.
Je suis d'accord avec vous.
C'est
plus limité.
Oui, mais quand même. Donc en fait, simplement pour terminer, c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation qui est paradoxale, et c'est vrai, je trouve que c'est pas très grave, quant au porte-avions, en effet, c'est un symbole, même
de
si ça consomme beaucoup d'énergie.
Non, c'est, oui, mais...
De quoi?
Un symbole de quoi? C'est un symbole quand on veut répondre à des questions sur Donald Trump. C'est plus difficile comme symbole quand on veut répondre.
Mais j'avais pas compris le symbole, ce qui était inquiétant, je trouve.
Quand on veut, précisément...
Quand je comprends pas, c'est...
Mais justement, vous avez raison, Sophie. Mais c'était une bonne chose pour répondre à Donald Trump et s'inscrire dans la suite de la séquence 11 novembre, ou pour parler de l'armée européenne. Ça l'est beaucoup moins pour parler des Gilets jaunes, parce que je pense que son enjeu n'est pas juste de com'. Le point n'est pas juste qu'ils disent « je vous ai compris ». Le point est qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer en face de lui, parce que je pense que son problème politique, c'est qu'il a de la peine à le comprendre, parce que sociologiquement, il est très éloigné de ça. Ouais. Et rien que les gilets jaunes, vous savez, rien que l'objet du gilet jaune, c'est quoi? C'est ce qu'on vous force à avoir dans votre coffre pour des très bonnes raisons de sécurité routière. Ouais. Mais, et c'est, en fait, il y a une part des Français qui ont l'impression qu'il y a des tas de petites décisions qui, toutes prises séparément, sont rationnelles, c'est-à-dire ça, votre alarme incendie chez vous, enfin des tas de choses, mais qui, à l'arrivée, vous coûtent cher, et vous faites l'addition de toutes ces petites choses rationnelles, des fermetures de maternité, des fermetures de petits hôpitaux, parce que, pour des raisons sanitaires, c'est logique, ou pour des raisons budgétaires, c'est logique, mais quand vous faites l'addition de toutes ces choses rationnelles-là, vous aboutissez à quelque chose qui n'est plus rationnel. Et je pense que c'est ça que lui... et une partie de son entourage ont de la peine à comprendre parce qu'ils comprennent mal que certains Français vivent dans une économie de rationnement.
Nouvelle déclaration, les mots du président de la République, il y a une impatience. Eh bien, il dit, je l'entends, je la partage. Est-ce que je peux considérer que le gouvernement a tardé, a tendu, s'est trompé sur la stratégie et les constats? Non, dit Emmanuel Macron. Ce que je considère, c'est que le constat sur lequel j'ai été élu est le bon, il faut transformer le pays. Je vous propose d'écouter ce court extrait, ces témoignages de nouveau recueillis dans la rue avec des gilets jaunes.
Nous ne sommes pas là, je répète, le peuple français, non pas les gilets jaunes, mais le peuple français sous la bannière tricolore n'est pas là pour le prix du carburant uniquement. On est là pour la hausse d'un niveau de vie correct.
L'ensemble des gens qui sont là, ça va être, comme on vous a dit, la CSG, ça va être le pouvoir d'achat, ça va être l'électricité, les mutuelles, ça va être l'agglomérat de tout ça.
Ce que je ressens là, c'est des millions de personnes qui le ressentent. Et aujourd'hui, on s'est levé et on n'est pas prêt de se coucher.
Voilà, témoignage à Nice, sur la route en Haute-Vienne, à Carpentras, Audrey Goutard, apparemment, peut-être que ce mouvement risque de dépasser l'objet initial.
En tout cas, certains le souhaiteraient. C'est pour ça que j'ai toujours du mal. Je suis sûre que c'est les gens qui s'expriment là ont une sincérité. Après, évidemment, on comprend bien la volonté de récupération. On entend bien, c'est ce que disait Sébastien Ferjeau, c'est qu'on entend bien le souhait, enfin l'agacement et l'exaspération de certaines personnes pour ces petites accumulations, effectivement, de contraintes, de frais, etc. C'est ce que disent les témoins aussi. Après, comme disait le Premier ministre ce matin et comme l'a redit le président Macron, ils ont été élus pour des réformes et pour du changement. Et ce sont des Français qui les ont été élus. Donc voilà.
Allez, 20h40 sur France Info. Nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
À trois jours de l'appel du blocage, au haut blocage des routes des Gilets jaunes pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants, Emmanuel Macron assure que s'il y a un droit à manifester, l'ordre public sera assuré. Le chef de l'État dit entendre la colère des Français. Emmanuel Macron est en ce moment même l'invité du 20h de TF1. L'autre colère de ce début de soirée, elle vient de Marseille où des milliers d'habitants ont défilé ce soir contre le mal logement. Ils ont demandé la démission de leur maire, Jean-Paul Gaudin. Cette manifestation, comme celle de samedi, fait suite aux effondrements de deux immeubles lundi dernier. Ils ont fait 8 morts. Les sénateurs ont voté aujourd'hui à l'unanimité en commission une proposition de loi centriste sur la protection des jeunes enfants face aux écrans. Le texte vise à obliger les constructeurs d'outils et jeux numériques à avertir sur les emballages tous les parents des risques d'exposition aux écrans des enfants âgés de moins de 3 ans. Ce texte doit être maintenant voté mardi prochain en séance publique. Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, va s'exprimer d'ici une vingtaine de minutes maintenant. Le gouvernement britannique vient ce soir de donner son feu vert au projet d'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Europe.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Jean-François Aquili.
L'interview du président de la République s'est donc achevée chez nos confrères de TF1 en direct du porte-avions, le Charles de Gaulle, ancré, vous le savez, basé à Toulon. « J'aurai besoin de vous tous », a conclu le chef de l'État. Je vous propose de revenir sur ses premières déclarations concernant, allez, on va dire, ce différend avec Donald Trump et sur la question de la sécurité européenne.
Les États-Unis d'Amérique, c'est notre allié historique et il continuera de l'être. C'est l'allié avec lequel on prend tous les risques, avec lequel on mène les opérations les plus compliquées. Mais être allié, ça n'est pas être le vassal. Et donc, pour ne pas être le vassal, on ne doit pas dépendre d'eux. Et donc, y compris par rapport aux Américains, nous devons dépenser davantage, nous devons faire davantage nous-mêmes, en tant que Français et en tant qu'Européen.
Voilà donc premier extrait de cette interview du président de la République. On l'a vu, on l'a entendu à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Je me tourne vers vous. Bonsoir Louise Baudet du service politique de France Info et bonsoir Christian Chesneau. Bienvenue de la rédaction internationale de Radio France. Christian Chesneau, vous qui êtes un peu l'expert sur cette question de la relation entre Trump et Emmanuel Macron, vous pensez que cela va permettre d'éteindre un petit peu ce différente entre les deux présidents.
Bon, on a senti que le président français, Emmanuel Macron, voulait un peu calmer les choses, prendre de la hauteur. Il a dit, je ne veux pas m'abaisser à faire une diplomatie de tweet. Donc, il a dit, bon, j'ai pas été froissé, mais donc il a voulu sortir par le haut. Il a rappelé que les Français et les Américains sont engagés sur des théâtres de guerre en Syrie, en Irak, dans le Sahel. Et puis surtout, il a sorti cette phrase, la France n'est pas la vassale des États-Unis. Elle est alliée, mais pas vassale. Il a pris des accents gaulliens. Il est sur le Charles de Gaulle, le porte-avions, donc là il y a un clin d'œil évident, prendre de la hauteur et dire voilà, la France est indépendante, est autonome, c'était tout le passage sur l'armée européenne.
Je vous vois sourire, David Bosmorin, vous acquiescez ce que dit Christian Chesneau au fond. Est-ce que c'est une mise au point ce soir et puis on arrête, on passe à autre chose?
Non, mais ça permet de boucler sur l'idée du porte-avions qui en fait prend une forme de tournure assez symbolique, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer sur... Le Charles de Gaulle, en effet, c'est ce que vous avez dit.
Parce qu'on a vu ces images avec cet avion de combat derrière.
Le Rafale.
C'est un Rafale.
En plus, oui.
Oui, bah, pardonnez-moi, un Rafale. C'est assez finalement assez martial, même, David.
C'est pas mal. C'est il a, vous l'avez souligné. Il y a en plus il y a le bruit de fond. Il y avait toute l'ambiance du porte-avions. C'est il a voulu.
Il a les moyens de nous bombarder samedi.
Ça c'est oui, une mais... note d'humour de Jean-Sébastien Ferjou. À noter ce
alors,
soir
sur le plateau
des informés.
Pas trop de hauteur.
Sophie de Menton.
Parce que il prend pas un peu trop de hauteur
dans
parce que franchement avec le Rafale bien sûr et le fait d'être sur le pont, enfin il y a tous les symptômes, tous les signifiants. Non mais je veux dire que là les Français, ils sont à ras des pâquerettes, c'est pas une critique, ils sont à ras des pâquerettes, ils veulent le prix de leur essence, ils veulent savoir combien
oui.
il a et donc je pense que réélever le débat, c'est fini maintenant parce que ça va tellement vite en plus
oui.
que le 11 novembre c'est fini.
Louise Baudet, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette interview
mais je retiens quand même qu'il a parlé essentiellement de la vie quotidienne des Français. Alors après, c'était dû effectivement aux questions de Gilles Boulot, qui a plutôt bien fait le boulot, excusez-moi, pour ce mauvais jeu de mots. Il a parlé, c'est vrai, des questions internationales sur 8 minutes, mais il y a plus de 20 minutes qui sont consacrées tout simplement à voilà au quotidien des Français. Il y a des choses qu'on attendait. Il a fait, par exemple, la pédagogie de l'impôt, sachant que là, on est face à un mouvement des Gilets jaunes qui conteste ouais. le bien fondé de l'impôt. Il a rappelé que c'est pour former nos enfants, que l'impôt ça sert à avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, que l'impôt ça sert à embaucher des policiers et des gendarmes. Ça, on s'attendait à ça. Mmh. On s'attendait aussi à ce qu'ils le redisent. Il n'y aura pas de changement de cap dans la politique menée. Pas d'erreur de fond, pas de changement de ligne, pas d'erreur stratégique, a-t-il dit. Mais il y a une chose qu'on n'attendait pas
alors,
nécessairement, c'est qu'il est passé à l'attaque ce soir, Emmanuel Macron. Pour lui, il met en garde les Français. Attention, méfiance, beaucoup de gens veulent récupérer ce mouvement. Et ça, c'est nouveau.
On entendait cette mise en garde lors de l'interview. Écoutez, ce que je vous propose, je vais vous faire réagir à ça, Audrey Goutard.
Oui.
Vous aurez la main, c'est promis. Nous allons entendre un nouvel extrait de cette interview d'Emmanuel Macron sur TF1 chez nos confrères à bord du Charles de Gaulle. Il s'est expliqué, le chef de l'État, sur justement ces questions de hausse des prix de l'essence à la pompe.
Regardons les choses en face. Les trois quarts de l'augmentation du prix à la pompe, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du pétrole mondial qui a augmenté. C'est ça la réalité. Et donc la réalité, c'est que nous sommes aussi dépendants de facteurs que nous ne maîtrisons pas et qui aujourd'hui en effet ne vont pas dans le bon sens. Ou de formules techniques qui ne sont pas décidées par le gouvernement.
Alors Audrey Goutard, je ne sais pas si on allait faire le plein de ce rafale qui était disposé derrière le chef de l'État. Apparemment,
nucléaire.
Oui, apparemment, je plaisantais. Apparemment, le chef de l'État, au fond, est sur la même ligne. Hein, il ne veut pas bouger, il ne faut pas bouger de cette histoire de taxe. Il n'est pas question pour lui de reculer.
Non, il est pas. Et d'ailleurs, son ministre avait fait donner l'explication de texte. Hein, ce matin, son premier ministre a fait le boulot en étant très clair sur ce qu'il céderait et sur ce qu'il ne céderait pas. En tout cas, il ne cède pas sur cette volonté, effectivement, de taxer le gasoil et l'essence. Moi, il y a une phrase que j'ai trouvée très intéressante dans ce qu'a dit le président, c'est cette phrase sur où il reconnaît quand même un échec de sa part. Il dit « il y a de l'impatience et de la colère, cette colère je la partage, il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire, je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Ce divorce, on le voit dans toutes les démocraties occidentales, il m'inquiète. » Et effectivement, lors de toute sa campagne, son objectif c'était de réconcilier les Français. Et là, il reconnaît quand même, pour l'instant, de ne pas y être arrivé, je trouve ça intéressant.
Alors vous faites bien de souligner, Audrey, comment interpréter Jean-Sébastien Ferjou cette espèce de sorte de forme d'aveu finalement, du président de la République?
Il peut difficilement dire autre chose. Je ne sais pas s'il répondait à une question ou s'il s'est saisi lui-même,
du sujet.
Ouais, Louise Bonnet, s'est saisi lui-même du sujet.
Oui, tout à fait. En fin d'interview, cette réconciliation entre la base et le sommet, effectivement, c'est son échec jusqu'ici, a-t-il dit.
Quand j'entends les arguments employés ce soir, je vois pas effectivement comment il peut résoudre le divorce, parce que moi je veux bien qu'on me fasse la pédagogie de l'impôt, parce que je suis un peu benêt pour m'expliquer que oui, ça sert à financer des écoles ou je ne sais quoi d'autre, mais enfin le sujet là, c'est que les gens, on leur dit que là, en l'occurrence sur les taxes de l'essence, parce qu'il y a quand même un quart, il y a les trois quarts qui sont dus à l'augmentation mondiale, mais il y a un quart qui est dû à ces nouvelles taxes, c'est lié à la fiscalité écologique et au financement de la transition écologique, sauf que il n'y a que moins de 20% produit collecté par ces taxes qui y sont consacrés. Donc il y a quand même un véritable sujet de dépenses publiques. Encore une fois, je reviens à ce que je vous évoquais tout à l'heure, parce que pareil, on parle de souveraineté européenne, puisque le président a parlé de souveraineté européenne, mais enfin, la successeur modérée. Elle en a rajouté. Elle a dit, ben oui, parce que les Français, eux, ils font toujours passer leur intérêt avant, parce qu'ils sont incapables de gérer leurs dépenses. Donc, Emmanuel Macron n'a qu'à essayer d'aller faire de la pédagogie de l'impôt. Et on verra si, les Allemands ont la perception qu'en France, on fait des impôts uniquement pour financer des écoles.
Vous posiez une question qui est très intéressante, c'est que Macron voulait absolument réunifier le pays. Il pensait que les partis politiques avaient montré leur échec. Il était au centre. D'ailleurs, François Bayrou l'a soutenu très intelligemment, d'ailleurs, ce matin sur Radio Classique. Mais il a un problème épouvantable, c'est que il n'y a plus de droite et il n'y a plus de gauche. Donc il n'arrive pas parce qu'il y a ceux qui sont déçus. Il y a les vrais, ceux qui avaient une idéologie de gauche, ceux qui étaient vraiment à droite. Et ceux-là sont tous contre lui. Donc c'est vraiment un phénomène très particulier qui fait qu'il ne peut pas réconcilier complètement les Français.
Un mot rapide avec vous, Christian Chesneau. Vous l'avez senti plus à l'aise sur les questions, au fond, de diplomatie que sur les problèmes, on va dire, domestiques, intérieurs français?
Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas tellement dans les détails. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire où on est la lutte contre Daesh. Est-ce que les Français vont arrêter cette opération en Irak et en Syrie? Où on est l'opération Barkhane au Sahel? On sait qu'on est dans une forme d'enlisement, donc il n'y a pas eu de point situation, peut-être pour rassurer les Français et dire à quoi sert l'armée. Donc il est resté assez vague sur l'armée européenne encore plus. Il a dit oui, il faut être autonome, etc. Madame Merkel est d'accord sur cette armée européenne, mais il n'a pas dit comment faire cette armée. Et c'est le problème, c'est de faire cette armée. Et c'est très très compliqué entre les Allemands, les pays de l'Est. Donc il est resté assez en survol et il n'est pas du tout entré dans les détails. Donc on reste un peu sur sa fin.
Oui, comme le rappelait Louise Baudet tout à l'heure, finalement, peut-être que l'objet essentiel de cette interview, vous le disiez, Louise, c'était d'essayer de calmer l'inquiétude des Français, leur mécontentement au sujet de ces questions de carburant. On y revient dans un instant, il est 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, tout d'abord Thomas Bénèche.
Pour Emmanuel Macron, entre alliés, on se doit le respect. Je ne veux pas entendre le reste. Réaction du chef de l'État ce soir dans le 20h de TF1 sur les tweets rageurs de Donald Trump hier contre la France. Sur la hausse des taxes sur le carburant, le président entend la colère mais assure que l'ordre public sera assuré. Et il le dit cela à 3 jours de l'appel au blocage des routes par les Gilets jaunes. Élu responsable que la justice passe, pouvait-on lire ce soir sur une pancarte à Marseille où des milliers d'habitants ont manifesté. Ils ont défilé lien entre la rue d'Aubagne et la mairie. Ce nouveau défilé fait suite aux effondrements d'immeubles il y a 10 jours maintenant dans le centre-ville de Marseille qui ont fait 8 morts. Outre-Manche, les principaux ministres britanniques du gouvernement de Theresa May soutiennent le projet d'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Cette décision sert au mieux les intérêts de la Grande-Bretagne, souligne ce soir Theresa May. Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, doit prendre la parole dans une dizaine de minutes sur ce dossier. On connaît les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue de football. Rennes affrontera Nantes, Orléans, le PSG, Dijon, Bordeaux. Tous ces matchs se joueront les 18 et 19 décembre prochains.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La suite est la fin du débriefing de l'interview présidentielle en direct sur TFA à bord du Charles de Gaulle. Au cœur du sujet, c'est évidemment la taxe carbone qui ne cesse de monter, coupable des hausses exagérées des prix des carburants. Faut-il la supprimer? Pas question, répond Édouard Philippe, c'était sur RTL ce matin. Et voici ce qu'en dit dans l'opposition Laurent Wauquiez, le président des Républicains qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV. Il faut cesser, dit-il, les hausses d'impôts.
La première chose que je veux que les gens comprennent, c'est la famille des Républicains. Maintenant, c'est très clair. Nous, on est capable de faire des économies sur la dépense publique, mais c'est zéro augmentation de taxes ou d'impôts. Plus jamais. Tant que je m'occuperai de ma famille, je ne veux de propositions qui reposent sur des augmentations de taxes. Et donc ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'il y a une différence entre, d'une part, ce que fait le gouvernement, qui consiste pas d'économies, je vous augmente les taxes, et ce que moi je souhaite qu'on propose. Nous, on fera des économies, et on explique où, mais la contrepartie, c'est que si vous nous faites confiance, on vous rend l'argent, et il n'y a aucune augmentation de taxes.
Allez, on va essayer d'aller assez rapidement parce qu'il reste peu de temps et vous êtes nombreux et j'attends vos réactions. Louise Baudet, vous le disiez, hein, il y a eu cette séquence sur la récupération, dit le chef de l'État.
Oui, méfiance, dit le chef de l'État. Beaucoup de gens veulent récupérer ce mouvement. C'est la première fois que le chef de l'État le dit aussi clairement. Les conseillers nous en parlaient depuis quelques jours, mais là, c'est vraiment manifeste. Il passe à l'attaque et il dit finalement qu'il va y avoir un problème de cohérence dans ce mouvement entre des gens qui seront dans les cortèges, qui veulent plus d'emplois publics. Là, il pointe du doigt la gauche. Gauche qui, elle, ne serait pas cohérente parce que finalement, elle s'oppose à des choses qu'elle a déjà votées, en l'occurrence une fiscalité écologique. Et puis, de l'autre côté, ouais. Eh bien, des gens qui veulent moins d'impôts, là, il pointe la droite, il dit « On est en train de vous mentir, de vous manipuler. Bonjour tristesse et salut la cohérence. »
Alors, pourtant, pour prolonger ce que dit à l'instant Louise Baudet, David Bosmorin, il est audible, Laurent Wauquiez, sur ces questions de hausse des taxes. C'est un petit peu le leitmotiv depuis de nombreuses années. Les Français, peut-être, en ont assez.
Je ne sais pas s'il est audible réellement, parce que en fait, il y a un discours qui essaye de s'agréger sur en effet ce que vous disiez, c'est-à-dire la contestation globale. La contestation globale, enfin, vous avez raison, c'est un mouvement citoyen. Maintenant, qui va le récupérer, si c'est récupérable? Aujourd'hui, c'est difficile à dire, en vrai.
Oui, Audrey Goutard, récupération ou pas alors?
Ah, ils voudraient tous être le chef d'orchestre du mouvement. On voit bien, ils se positionnent tous, on le voit même au travers des tracts. On voit des tracts qui se ressemblent les uns les autres, quels que soient les partis d'opposition. Le problème pour ceux qui souhaitent récupérer, c'est que on voit bien, on l'a vu, on l'a entendu là dans les interviews des gilets jaunes sur le terrain. Menteurs, voleurs. On voit bien que c'est une claque à la classe politique, une claque aux syndicats, et ils ne veulent absolument pas être entre guillemets récupérés.
Jean-Sébastien Ferjou sur ce sujet de la tentative ou pas de récupération politique. Au fond, les formations, les partis ont du mal à trouver leur espace dans cette histoire.
Oui, je crois qu'Emmanuel Macron a raison de souligner l'incohérence dans les revendications, en tout cas l'incohérence parmi les soutiens politiques de ce mouvement-là. Après, je suis pas certain que ce soit un argument qui soit si efficace que ça, même s'il est juste sur le fond, parce que je pense que les Français qui se sentent proches des Gilets jaunes, et il y a eu différentes enquêtes d'opinion qui montrent qu'il y a quand même pas loin de 3/4 des Français.
73%, oui.
Voilà, mais il y avait aussi un sondage sur Atlantico ce matin.
Ah, pardon.
Non, mais il y a eu le sondage Elabe ce soir, effectivement, on avait un autre l'IFOP qui montrait qu'il y avait 71% des gens qui attendaient, qui pensaient que ce mouvement-là pouvait vraiment contraindre le gouvernement à changer de politique économique.
Ce qui n'est pas le cas.
Parce que ce qu'oublie de dire Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est que oui, ils ont été élus pour faire des réformes et pour transformer le pays. Sauf que la campagne présidentielle n'ayant pas vraiment eu lieu, parce que justement, il y a eu une espèce d'effet de magie autour d'Emmanuel Macron, bah, la nature de la différence, elle a jamais été vraiment précisée. Et c'est ça le problème qui se pose à eux aujourd'hui. Eux, ils en avaient une idée en tête, leurs électeurs peut-être moins.
Sophie de Menton, c'était évoqué par Audrey Goutard. Pardonnez-moi, Emmanuel Macron qui ne reconnaît ne pas avoir réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Est-ce que ça n'est pas au fond peut-être la phrase qui va rester de cette interview présidentielle?
Je crois pas, parce que tout le monde sait que la réconciliation, ça veut pas dire grand chose. En revanche, pour répondre à votre question, je suis pas sûre non plus que les partis politiques aient vraiment tenté de récupérer ce mouvement. Ils essaient de suivre le mouvement. Ils font semblant. Ils vont vaguement mettre un gilet jaune sur sa parka rouge, mais discrètement dans un coin. Il n'y a pas d'organisation des mouvements pour y aller, parce qu'ils savent pas du tout ce qui va se passer. Et en fait, personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de pubs, qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, mais, on ne sait pas. Et je crois que c'est assez sage. Je crois que le Premier ministre disait aussi ce matin qu'il n'allait pas du tout faiblir par rapport à la discipline de ses partis, parce qu'on sait qu'il y a des casseurs. On sait que comme il n'y a pas d'organisation qui contienne, il n'y a pas de syndicats. Les syndicats font quand même une police, etc. Il n'y a personne. Donc ça, c'est le vrai danger. Et c'est uniquement ça dont ils ont peur. Je crois que ce n'est pas du reste.
Oui, ce sera peut-être le mot de la fin. Louise Baudet, rapidement, une seconde de 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains jours? Vous le savez ou pas?
Dans les 3 prochains jours, vous voulez dire ce qui va se passer samedi ou d'ici
oui,
là?
Politiquement, est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous, d'autres annonces? Pas sûr.
Non, Emmanuel Macron demain est au Maroc. Désormais, il va y avoir évidemment les proches.
C'est
qui
une
vont
ligne
en parler,
droite, mais... c'est un tunnel jusqu'à samedi. Bon, c'est
surtout
rendez-vous.
Voir ce qui se passe samedi, bien sûr,
à la
avec
mobilisation.
Cette inquiétude des pouvoirs publics.
Jean-Sébastien Ferjou, qu'y a-t-il à la une d'Atlantico.fr? Sur le site, il ne sait pas.
Il ne sait pas.
Allez, je vous remercie à tous. Audrey Goutard, Sophie de Menton, Jean-Sébastien Ferjou, en mode coquin ce soir, David Boss-Morin. Louise Baudet, merci à vous. Et merci à vous, Christian Chéneau, pour vos éclairages sur le débriefing de cette interview présidentielle du président donc Emmanuel Macron à bord du Charles de Gaulle. Pour ma part, je vous retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.